Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour Culture Média. Au menu, 2 heures de médias et de culture au sens large, très large. Tous les médias, toutes les formes de culture. On va parler musique et bande dessinée. Il y aura évidemment le portrait inattendu d'Hélène Manarino que vous pouvez suivre d'ailleurs en vidéo sur le site europe1.fr comme toute l'émission également. Nous sommes le 9 et c'est notre émission 99, c'est-à-dire 9-9 et tout est neuf. On va parler de la nouvelle formule de la rare et précieuse Revue 21 avec sa co-rédactrice en chef Léna Mauger, puis la comédienne Julie Debonnat avec une nouvelle série pour TF1 Peur sur le lac, et là encore tout est neuf, d'autant qu'on y découvre un virus neuf inconnu. Et puis une légende, le comédien Thierry Lhermitte, vous allez me dire qu'il n'est pas neuf, oui, mais dans un rôle totalement neuf pour lui, c'est la première fois qu'il monte sur les planches tout seul. C'est pour la pièce de Simon Wiesenthal, Fleur de soleil, au Théâtre Antoine. Lhermitte s'était juré de ne jamais monter seul sur scène, comme quoi, les bonnes résolutions de début d'année. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Et lui, il est quasiment neuf, Pierre Desereau, à son âge. Bonjour,
ah oui,
Pierre Desereau,
bonjour.
De Pure Média. On va commencer avec vous par les audiences télé. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir?
Alors hier, c'était TF1 qui s'est classé en tête des audiences avec sa traditionnelle série médicale américaine du mercredi soir, j'ai nommé New Amsterdam. La série de la Une qui a rassemblé 3 500 000 fidèles, 16,5% du public. C'est un score en hausse sur une semaine, quasiment 500 000 téléspectateurs de plus.
Là encore, tout est neuf. New Amsterdam, c'est la nouvelle Amsterdam. C'est
voilà,
du neuf.
Exactement. Du neuf aussi pour France 2, deuxième avec le lancement de Fête des Gosses, sa nouvelle série familiale avec Fred Testo, Amel Chabi ou encore Jonathan Lambert. Cette nouvelle série qui suit 3 différentes familles et qui s'inscrit dans l'esprit de Fais pas ci, fais pas ça, a attisé la curiosité de 3 070 000 personnes, 14,2% de part d'audience. C'est un bon score pour cette nouvelle série de France 2. Alors la troisième place ensuite, elle est pour M6, la 6 qui pariait sur un nouveau numéro de Patron Incognito. Cette émission dans laquelle des dirigeants se déguisent pour découvrir leur entreprise au milieu de leurs employés.
Ouais. Hier, c'était Hakim... Carlos Ghosn.
Presque. C'est Hakim Ben Othman, fondateur d'une chaîne de kebab, qui s'est prêté au jeu et ce numéro a été suivi par 2 millions de téléspectateurs, 9,5% du public, un score en très légère hausse par rapport au précédent numéro. Et la quatrième place, médaille en chocolat, c'est pour France 3 et sa soirée foot. La 3 qui proposait le match de quart de finale de Coupe de la Ligue opposant le PSG à l'AS Saint-Etienne et 1 900 000 amateurs de ballon rond, 9% du public ont suivi cette rencontre.
C'était pas foufou, mais j'étais au parc et déjà Paris menait à la mi-temps 3-0, Saint-Etienne était à 10, donc après il y a moins de suspense.
Voilà.
Et donc l'audience s'érode un peu.
Voilà, et du côté des autres chaînes, il y a 1 million, il est pour TMC avec le spectacle inédit sans modération de Laurent Gérard. 1 170 000 personnes, 6,6% du public. Et il faut dire que juste avant, Quotidien avait cartonné avec 1 900 000 fidèles, 7,9% du public et un pic jusqu'à 2 800 000 personnes. Donc les nouvelles sont toujours très bonnes pour Quotidien sur TMC.
Merci Pierre, à demain.
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Lise Pressac.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
C'est votre journal des médias qui débute par la conférence de Carlos Ghosn, pas toujours compréhensible au sens littéral du terme, hier après-midi.
C'était l'événement médiatique d'hier après-midi. L'ancien patron de Renault-Nissan tenait une conférence de presse depuis le Liban où il s'est réfugié après avoir fui le Japon. Il était censé expliquer pourquoi et comment il s'était évadé du pays où il était assigné à résidence en attendant son procès. 150 journalistes triés sur le volet étaient conviés à cette conférence de presse retransmise par les télévisions du monde entier. On était suspendu à ses lèvres. Alors vous ne parlez pas arabe, Philippe,
non.
Moi non plus. Et sur BFM TV, on a des petits soucis de traduction, que ce soit avec l'arabe ou avec l'anglais d'ailleurs.
Et si vous ne confessez pas, les premières explications en tout cas de Carlos Ghosn, c'est un jour très important pour moi, voilà par quoi il a commencé.
Since November 19, 2018.
On n'est pas encore entré dans le dur du dossier, hein.
Et je ne sais pas, j'entends pas.
Ouais, je ne sais pas, j'entends pas. Le bug a duré une vingtaine de minutes. Terrible. Impossible à rattraper pour les journalistes en plateau, ni pour leurs invités qui ne peuvent pas commenter ce qu'ils ne comprennent pas. Alors BFM TV avait bien un traducteur, mais c'est un problème technique de configuration du son qui est en cause. Les téléspectateurs ont pu se rabattre sur CNews, LCI, France Info ou encore France 24. Du côté de BFM TV, on minimise en rappelant que l'essentiel des 2h30 de l'intervention de Carlos Ghosn a pu être traduit.
Alors moi, j'ai regardé le début et je peux vous dire que CNews, LCI et BFM n'avaient pas de traducteur, mais sur France Info, ils avaient un traducteur arabe. Là, pas besoin de traduction en revanche pour l'émission Masked Dancer. Mais s'il faut un traducteur, c'est de l'anglais. Attendu dans les prochains mois. C'est quoi ce lancement?
Vous connaissez Masked Singer? Oui. Eh bien, Masked Dancer, c'est la même chose. Mais au lieu de chanter, les stars cachées dans des costumes bizarres dansent. La Fox vient de commander une saison.
Mal, hein.
Mais oui, le type qui est en Bob l'éponge, il va faire le lac des signes, comment?
Non, on ne sait pas. En tout cas, c'est la Fox qui a commandé une saison de cette déclinaison
dans
de Masked Singer. Masked Singer, c'est une émission qui cartonne dans le monde entier, aux États-Unis, où la saison 3 démarre le 2 février, au Mexique, en Allemagne, en Angleterre ou encore en France. La saison 1 s'est terminée il y a quelques semaines sur TF1 avec la victoire de Laurence Boccolini cachée dans une licorne. Alors l'idée de faire un Masked Dancer est venue du talk show de l'animatrice américaine Ellen DeGeneres. Pendant la diffusion de l'émission aux États-Unis, en fait, elle avait imaginé une séquence de danse costumée qu'elle avait repris plusieurs fois et qui a donc donné des idées à la Fox. Une saison complète de Masked Dancer a été commandée et sera diffusée dans les prochains mois et elle sera produite donc par Ellen DeGeneres elle-même.
C'est génial, c'est l'idée parodique qui devient l'émission. Vous connaissez le slogan parodique de mai 68 qui est resté? C'était pour se foutre de leur gueule, Jean-Yann des 68ards. Jean-Yann avait inventé un slogan, il est interdit d'interdire.
Et, voilà.
Et c'est devenu le slogan de 68. Tout autre chose à présent, vous nous parlez d'une école dans laquelle on n'apprend ni à chanter ni à danser, mais à être syndicaliste.
Oui, c'est une école située à 40 km au sud de Paris et qui depuis 70 ans accueille des salariés venus se former au syndicalisme. Le documentaire À l'école de la CGT, diffusé ce soir sur France 3, nous fait découvrir de l'intérieur le centre de formation syndicale de la CGT. Alors pendant une semaine, on y apprend les règles de base, ne pas être seul à porter de revendications, essayer de ne pas aller jusqu'à la grève en tentant de bien négocier et trouver la bonne posture, écoutez, pour se faire entendre.
Vous allez rester pendant 3, 4 heures, 5 heures des fois en réunion. Moi je me mets toujours, c'est-à-dire les vitres derrière. Moi j'aime pas être perturbé par la lumière. Donc là, une bonne position, ben voilà, où tu es Fred. Au centre de la pièce, que vous entendez tout, pas trop... le plus possible de l'employeur. L'employeur, il faut l'avoir en face. Voilà. Alors, des fois, il va essayer de... Il se déplace, mais vous déplacez. Il crée un rapport de force, il crée un conflit. Il faut le renvoyer immédiatement.
Donc voilà, vous avez la vitre derrière vous et le patron en face de vous toujours. Alors qu'on vit l'une des grèves les plus longues de notre histoire, il est intéressant de voir de l'intérieur comment se forment les syndicalistes. À l'école de la CGT, c'est un documentaire d'Yves Gaonac diffusé ce soir à 22h35 sur France 3.
Et alors, sans transition, on passe du syndicalisme à l'effeuillage.
Oui, un striptease, mais pour la bonne cause, vous allez comprendre. 15 personnalités, 8 femmes et 7 hommes ont accepté de se dénuder pour sensibiliser à l'importance du dépistage du cancer du sein, de la prostate et des testicules. L'émission s'appelle Star à nu et elle sera diffusée en deux parties sur TF1. Une soirée avec les femmes, Maëva Galanterre, Marine L'Orphelin ou encore Firmine Richard. Et une autre avec les hommes, Bruno Guillon, Philippe Candeloro, Baptiste Giabiconi, Olivier Delacroix et Alexandre Devoise, dont la femme a été touchée par un cancer. Écoutez-le au micro de Louise Bernard.
À aucun moment j'ai hésité, j'ai dit banco. Ensuite, je ne te cache pas que j'ai eu quelques interrogations à un moment donné en évoluant, en voyant quel était le concept. Je le connaissais de toute façon, se mettre nu jusqu'au bout, mais je ne pensais pas que c'était si difficile, si compliqué. Je ne pensais pas que les étapes allaient être si difficiles à franchir, mais en tout cas, je veux dire, un véritable soulagement quand tout cela s'est terminé, dans le bon sens du terme, évidemment.
Ils se sont entraînés pendant 3 semaines sous la direction du chorégraphe Chris Marquez avant de finir nu donc sur la scène du Lido devant un millier de personnes. L'émission est produite par Arthur et pour lui, toute la difficulté aura été de tourner une émission de divertissement tout en parlant d'un sujet sensible.
Il y a des anonymes qui viennent témoigner de leur cancer, qui sont géniaux. Il y a Jean-Pierre Pernaut, c'est un moment. C'est le Français le plus aimé, le plus regardé. Il rentre dans tous les foyers, c'est la première fois qu'il en parle. Vous allez découvrir de quoi est mort Karl Lagerfeld. Il y a des choses folles dans l'émission.
Des stars découvertes, donc, à découvrir le 31 janvier à 21h05 sur TF1.
Et Arthur, qui sera notre invité le 31 dans Culture Média. Merci beaucoup, Lise Pressac. À demain.
À demain.
À suivre l'info média du jour, on va parler d'un magazine, la revue 21, qui se réinvente. Et on en parle avec l'une de ses rédactrices en chef, Léna Mauger, dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Et c'est l'heure, Philippe, de l'info média du jour.
Oui, c'est une revue tout à fait à part dans le paysage de la presse française. 21 en chiffres romains, sous-titré à sa sortie, l'information grand format. Après 12 ans d'existence, ce trimestriel fait sa mue en sortant demain, vendredi, une nouvelle formule. Et c'est notre info média du jour, vous l'avez dit, Céline. En 2008, lorsque 21 a débarqué, c'était une mini-révolution. La revue est épaisse comme un annuaire téléphonique. Donc, on a un petit département quand même. Les articles sont des récits longs, très longs. Il n'y a pas de publicité et cerise sur le gâteau. La revue est volontairement absente des kiosques, mais distribuée dans les librairies pour 15 euros, presque le prix d'un livre. Il faut dire que 21 est une revue pionnière qui a inventé un nouveau genre, le MOOC, contraction des mots magazine et book. Cela a inspiré de nombreux concurrents comme Feuilleton, Zadig, America, L'Éléphant, Oui Demain, Uzbek Erika. Ils n'ont pas tous survécu. Je reçois maintenant pour en parler Léna Mauger. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'une des deux rédactrices en chef de 21 avec Marion Quillard. Vous êtes à 36 ans, un bébé 21, puisque vous faisiez partie de la revue à sa naissance, mais vous êtes également une maman 21, puisque vous avez supervisé et planché sur ce relooking. Pourquoi était-il urgent de changer? Est-ce que vous avez fait comme fait tout le temps la presse, et on les comprend, changer pour changer?
Alors, il n'y avait vraiment aucune urgence, mais il y avait une envie, parce que comme vous l'avez dit, nous, ça fait presque 12 ans qu'on travaille pour ces revues, et quand on travaille dans une revue depuis 12 ans, on s'use, une revue c'est un être vivant, et on a envie de se réinventer. On est dans un écosystème où tout change, la série télé se réinvente, la télé se réinvente, la radio se réinvente, et comment tous ces modes d'écriture, on essaye de les traduire dans une revue papier en inventant des nouveaux formats.
Quand vous avez démarré, par exemple, l'iPhone n'existait pas.
C'est vrai.
Voilà, je crois qu'il a 11 ans, si je me souviens bien. Votre nouveau sous-titre est donc la baseline, comme on dit dans les bureaux de marketing, dans l'intimité du siècle. C'est quoi l'intimité du siècle d'ailleurs? Ça veut dire quoi? C'est une très belle formule, mais qu'est-ce qu'elle veut dire?
Alors ça justement, c'est une nouvelle formule qu'on avait, parce que quand 21 s'est créé il y a 12 ans, ça s'appelait l'information grand format, c'était notre sous-titre. Aujourd'hui,
ça,
le grand
format, ce que ça voulait dire.
Il y en a un peu partout. L'intimité du siècle, c'est vraiment l'esprit, l'ADN de 21. À 21, on raconte des histoires incarnées, des histoires sur le terrain. On envoie des reporters, des journalistes, des illustrateurs nous raconter le monde sur 10-12 pages, et donc essayer de faire ce modeste trait d'union entre l'homme et le siècle.
Magnifique. Qu'est-ce qui change concrètement dans la nouvelle formule demain? Qu'est-ce que les gens vont découvrir qu'ils ne connaissaient pas auparavant quand ils lisaient 21?
Cet esprit reste. Ouais. Après, 21, ça a toujours été un laboratoire. On a eu envie de rester ce laboratoire en inventant des formes plus variées, en repensant le rapport texte-image, en inventant des nouvelles rubriques, en mettant la photo en majesté. Il y a toujours eu un portfolio dans 21. Là, on l'a mis dans un très beau papier glacé. Mmh. Et on a aussi tenté dans ce laboratoire d'avoir des formats où on mêle des photos d'archives, de la photographie, de l'illustration.
Le début a changé. Le début, qui était un petit peu une sorte de pêle-mêle, c'est plus pareil, ça démarre.
Alors,
plus pareil.
Justement, pour répondre à ce côté intimité du siècle, on a voulu encore plus qu'avant embarquer le lecteur dans une histoire. Ouais. Et en fait, cette histoire que vous voyez sur la couverture, donc là c'est dans la tête d'un pilote de drone, elle commence dès la première page et pour 30 pages.
Ouais. Comme dans les aventuriers de l'Arche perdue, je vais arriver à le dire, vous vous souvenez de la révolution qu'avait fait ce film? C'est que le film commençait et après il y avait le générique. Et là c'est pareil, on entre dans l'histoire, et après il y a votre édito.
En fait, ça permet d'avoir une relation presque charnelle à une histoire.
Ouais.
Parce qu'on rentre dans le texte, mais on rentre aussi dans le dessin, on vous emmène quelque part, et là on vous amène vraiment dans la tête de ce pilote.
C'est signé Marion Touboul, qu'est-ce que raconte ce récit?
Alors pour nous, c'est un récit qui est important, parce que c'est un récit qui justement est très 21. D'abord parce que l'auteur, Marion Touboul, c'est une histoire qu'elle porte elle-même. Et on raconte jamais mieux une histoire que quand c'est une histoire qui vous anime. Marion Touboul, en fait, elle était fascinée par les drones, plutôt par les drones civils. Elle avait envie, en fait, de piloter des drones. Elle s'est formée pour être télépilote.
Ouais.
Et ensuite, en s'intéressant à ça, elle s'est dit, qu'est-ce que c'est être pilote de drone de guerre? Comment, en fait, le pilote de combat, qui avant avait un face-à-face, en fait, avec la guerre, qui était sur le terrain, tue depuis un cockpit avec un joystick? Et donc, elle est partie aux États-Unis, dans la base du Nevada, où les pilotes américains tuent au Pakistan, en Afghanistan. Et il se trouve que quand elle était là-bas, il y avait les Français qui se formaient pour devenir eux-mêmes pilotes de drone. Et donc, elle confronte, en fait, le point de vue du pilote français et du pilote américain. On est dans leur tête, vraiment, on est dans leur pensée. Qu'est-ce que c'est cette guerre? Comment je tue à distance? Et on est dans une histoire qui est très 21.
Et qui est dans l'actu, puisqu'on l'a vu, le général iranien qui a été tué en Irak il y a quelques jours par les Américains a été tué par un drone et pas par un pilote dans un avion. Et la France va se mettre, c'est une annonce, aux drones tueurs. On n'avait que des drones d'observation, si je ne me trompe pas, et maintenant il y aura des drones tueurs. Dans l'édito, vous écrivez ceci: en embarquant pour la base de Creech dans le Nevada, dans la tête de militaires français qui apprennent à piloter nos premiers drones armés, nous ouvrons un débat. Le Sénat l'avait recommandé en 2017, il n'a jamais eu lieu. À partir de cette année, l'armée tuera à distance. Elle effacera des vies depuis des box métalliques sans que les Français aient été consultés. Et vous ajoutez: un ami de papier ne vous dit pas quoi penser. Bah si, là vous venez de nous dire quoi penser. Vous venez de nous dire que c'est pas bien.
Non, après c'est à vous, au contraire, de vous faire...
Quand on lit votre édito, non, on se dit que c'est vraiment pas bien. Qu'à distance, on efface des vies dans des box métalliques, non, c'est pas très glorieux.
Vous pouvez penser que c'est bien. L'armée pense que le drone est une arme technologique qui permet de protéger en fait ses soldats, qui permet de tuer dans des conditions qui sont plus sécuritaires, qui permet de tuer moins cher aussi. Ouais. Donc à vous, et justement dans ce dossier, ce qui est assez intéressant, c'est que donc on a ce côté intime, on vous raconte aussi avec des infographies en fait comment fonctionne un drone, et ensuite vous avez des témoignages de philosophes.
Ouais.
qui vous explique ce que c'est cette théorie du drone, ce que c'est cette guerre soi-disant propre, mais à vous de vous faire votre propre point de vue. L'auteur elle-même raconte qu'elle s'est passionnée pour les drones.
Et alors, si on m'avait dit un jour que 21 allait en parler, je me serais dit, mais non, c'est pas possible, c'est pas le même journal. Mais si, 21 parle de Kim Kardashian, juste après ça.
Après 12 ans d'existence, la revue 21 change de formule et on continue à en parler avec Léna Mauger, l'une des rédactrices en chef de la revue 21, dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
C'est Léna Mauger qui est notre invitée. Elle est l'une des rédactrices en chef de la revue 21 qui fait sa mue avec une nouvelle formule distribuée dans vos librairies à partir de demain, Philippe.
Très facile de reconnaître visuellement la revue 21 dans une librairie. D'abord, 21, c'est écrit en chiffres romains. Et puis, c'est un format dit à l'italienne, c'est-à-dire que la couverture est horizontale. Évidemment, une fois qu'on ouvre, c'est en vertical. Il y a également un récit de Patricia Tourangeau sur les papy braqueurs qui ont braqué la star mondiale de la télé-réalité Kim Kardashian. Drôle de choix pour 21, ai-je dit en préambule tout à l'heure, le people.
On peut se dire, mais qu'est-ce que ce récit people dans 21?
C'est d'ailleurs ce que j'avais dit, ouais.
Et en fait, c'est pas du tout un récit people parce que Kim Kardashian, on s'en fiche. Patricia Tourangeau, qui suit les flics et les voyous depuis 30 ans et qui écrit ce papier avec sa verve, qui est un papier à la Audiard, ne s'intéresse pas non plus à Kim Kardashian. En revanche, les papis braqueurs qui ont entre 60 et 74 ans, qui ne connaissent pas Instagram, qui ne connaissent pas non plus le nom de Kim Kardashian. D'ailleurs, ils disent c'est la femme d'une célébrité. Et ils pensent à Kanye West, qui est le troisième mari de Kim Kardashian. Elle, ce qui l'intéresse, c'est ses papis qui représentent le banditisme à l'ancienne, qui ne sont pas des grands bandits qui avant ont fait du stup, ont tous fait des allers-retours en prison.
Faut le dire.
Et c'est des pieds nickelés.
Et alors, elle l'écrit avec l'argot des pieds nickelés, l'argot des années 60. On est dans les tontons flingueurs, Patricia Tourangeau. Le pneu arrière crève et il tombe, il remonte et pédale, mais le sac accroché au guidon dégringole et les bijoux s'échappent. Il chute à nouveau et perd la joncaille sur le trottoir. La joncaille, il faut la sortir.
Des vélos qu'ils avaient achetés sur le Bon Coin.
Oui, non, mais là, j'étais en train de parler de Patricia Tourangeau. Voilà. Mais c'est ça qui m'amuse et c'est ça qu'on trouve dans 21. Alors, je me suis dit, quand même, il y a un encadré pour vos lecteurs Bac plus 8. J'aime beaucoup ce petit encadré. Le papier est illustré par des dessins, mais il y a une photo. Et il y a un encadré, c'est qui Kim Kardashian? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas qui c'est parmi vos lecteurs.
Ah, mais parmi nos lecteurs, mais parmi ma famille, nos amis, je pense que plein de gens, non seulement ne savent pas Kim Kardashian, mais en plus s'en fichent complètement.
Vous donnez ce très très bon résumé sur Instagram, c'est la reine des selfies et des maillots trop petits. Oui, demain, un de vos concurrents parle du monde de demain. Vous faites un peu l'impasse sur les sujets comme l'intelligence artificielle, les robots, la nourriture du futur, l'écologie. C'est tombé sur ce numéro ou est-ce que ce n'est pas des sujets qui vous intéressent? Quoique dans les drones, il y a beaucoup de technologies.
Alors, non seulement c'est des sujets qui nous intéressent, mais en plus on traite effectivement les drones. Quand on vous raconte comment fonctionne un drone, on est dans la nouvelle technologie, on est dans la guerre de demain, on est dans l'intelligence artificielle. Et on a aussi une nouvelle rubrique dans ce nouveau 21, qui est une rubrique sur la crise climatique, avec au jour le jour, le face-à-face entre les hommes et le climat, entre les hommes et la planète, pour montrer notre inaction face à la crise climatique.
On va entrer dans la cuisine. Comment fonctionne la rédaction pour sortir 210 pages chaque trimestre? Vous êtes combien?
Alors, les revues, c'est toujours un fonctionnement très artisanal. C'est beaucoup de passion et d'huile de coude. Donc, on a 21. On a aussi la petite sœur de 21 qui est 6 mois, qui est une revue qui raconte des histoires en photo. Mmh. Et pour ces deux revues, on est deux rédactrices en chef. On a choisi d'être toutes les deux rédactrices en chef des deux revues.
D'accord.
On a une journaliste en interne, une directrice photo et ensuite beaucoup de contributeurs extérieurs. Donc, en fait, à plein temps aux journalistes, nous sommes quatre pour faire tourner ces deux revues-là.
Mais c'est vous qui trouvez les sujets. Prenons par exemple le cas de Patricia Touranchot qui écrit sur le braquage de Kim Kardashian. C'est elle qui vous amène ça? C'est vous qui dites « tiens, on a une idée pour toi ». Comment ça se passe?
En fait, c'est un peu les deux. C'est déjà, on a beaucoup de propositions de sujets. Patricia, c'est elle qui a proposé le sujet. Mais après, nous, on commande aussi beaucoup. On voit parfois une petite dépêche quelque part. On se dit, nous, on a été reporters pendant 10-12 ans. Donc en fait, ça fait un an et demi qu'on est rédactrice en chef. Donc il y a aussi plein d'histoires qu'on rêverait de faire et qu'aujourd'hui, on commande à des journalistes.
Il y a du temps long. Combien de temps? Moi, je viens d'Actuel, qui était la presse écrite, où parfois, Bizot nous laissait 2 semaines, 3 semaines pour enquêter. Est-ce qu'on peut trouver ça dans 21? En combien de temps vous faites des sujets ou vos reporters sur le terrain?
On peut partir 3 semaines sur le terrain. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et cette importance du temps long, c'est vraiment ce qui fait l'identité et la force des revues.
3 semaines sur le terrain. Je vais expliquer aux gens ce que ça veut dire. Il y a le temps d'écriture, mais ça veut dire déjà 20 nuits d'hôtel. Combien ça coûte? Comment vous arrivez à être rentable? D'ailleurs, arrivez-vous à être rentable?
Alors, on est rentable. La revue a 12 ans et ça fait 12 ans qu'elle fonctionne très bien. Après, nous, on vit uniquement de nos lecteurs. Vous l'avez dit, on n'a pas de publicité. Donc les journalistes, ils vont pas au Radisson. Hein,
ouais.
Ils savent aussi qu'on est des revues et ils font attention à leurs frais. Après, quand vous partez 3 semaines en reportage, c'est tout à fait possible. Mais on a vraiment ce soin.
Non, je veux dire ça, je veux dire le sens de ma question. C'est que les grands hebdos, l'Express, Le Point, le Nouvel Obs et d'autres, je ne sais pas lequel j'oublie, Marianne, ne peuvent plus envoyer des journalistes 3 semaines. Ils les envoient 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 1 semaine. C'est déjà un long reportage pour de la
après,
presse.
C'est des choix, en fait.
Bien
c'est,
sûr.
Nous, on a 10 grandes histoires. Dans un magazine, vous avez beaucoup plus de sujets. Pour ces 10 grandes histoires, vous pouvez vous permettre d'envoyer les gens sur le terrain.
Combien de lecteurs? Combien d'exemplaires vendus? Est-ce qu'il y a des abonnements?
Est-ce que vous voulez les vrais ou les faux chiffres? Parce que dans les revues, on a souvent
tendance
à donner les chiffres des lecteurs.
Parce qu'on donne toujours les vrais et les faux. J'adore cette distinction et je vous suis sur ce terrain. Allez-y.
Donc les vrais chiffres de vente aujourd'hui, c'est 22 000.
Ouais.
On a 8 000 abonnés. Voilà, c'est stable. En
22 000,
fait,
si on compare ça à un livre, puisque vous êtes vendu en librairie,
c'est
tout à fait honorable. Oui, à partir de 10 000, un éditeur est très content.
C'est comme si on avait un best-seller tous les 3 mois.
Ouais, exactement, 2 best-sellers. Vous savez déjà sur quoi vous travaillez pour le prochain? Vous le savez, j'imagine que vous le savez, mais vous n'avez pas le droit de le dire.
Je peux vous dire un des sujets sur lesquels je travaille, c'est sur le business des passeports.
À sa naissance, 21 était adossé à la maison d'édition Les Arènes. Vous avez failli mourir en 2018 quand le groupe créé par Laurent Beccaria et Patrick Saint-Exupéry avait lancé l'Hebdo. Hebdo, c'est un hebdomadaire sans H qui a tenu, je crois, 6, 7 ou 8 semaines. Vous avez été racheté par la revue dessinée, associée elle-même à l'éditeur Le Seuil, qui a 34% des parts. Qu'est-ce que ça change pour vous, si tant est que ça change quelque chose?
Alors nous, dans notre quotidien, ça ne change pas grand-chose. Ça a été difficile parce que je ne vous cache pas que quand une revue est mise en péril, c'est toujours compliqué.
Mmh.
Après, avant, on était un écosystème de maisons d'édition. Aujourd'hui, on a un écosystème de revues indépendantes avec une maison d'édition comme actionnaire. Donc au quotidien et dans la production de nos histoires, ça ne change pas grand-chose.
Et sont-ils intervenants? Je ne sais pas d'ailleurs si les précédents étaient interventionnistes
sur
votre
contenu. Non, nous on a vraiment la liberté. Là, ce 21, on l'a vraiment repensé, réinventé avec le directeur artistique, qui est en plus le directeur artistique depuis les débuts de la revue.
C'est rare qu'un journal soit dirigé par 2 femmes. Est-ce que ça change quelque chose ou strictement rien du tout?
Alors, je ne sais pas si on poserait cette question à un homme, mais ce qui est sûr,
bah
c'est
si,
qu'on a forcément...
Si tous les journaux étaient dirigés par des femmes depuis un siècle et qu'il y a 2 mecs qui arrivent, quand un type arrive et qu'il est sage-femme, on lui dit qu'est-ce que ça fait d'être sage-femme dans un hôpital où toutes vos collègues sont des femmes. Donc là, c'est cette question-là que je pose.
Ce qui est sûr, c'est qu'on a forcément un regard qui est le nôtre de femme blanche de 30 ans
ouais.
sur la société et le monde dans lequel on vit.
Et ça change quoi dans les pages? En quelle manière ça se ressent?
J'en ai aucune idée, mais sûrement que ça, le lecteur peut-être le verront, mais je ne peux pas vous dire.
Et si le lecteur ne le voit pas, c'est encore mieux. Ça me fait penser à la très belle phrase de Simone Veil, que je ne citerai pas ici, que tout le monde a dans les mémoires. Le numéro sort demain, il s'appelle 21, la couve c'est dans la tête d'un pilote de drone, il a les cheveux très très longs, c'est pas des cheveux, ce sont les flammes qu'il génère après avoir tiré sur ses victimes. Merci beaucoup Lina Mauger, vous êtes avec Marion Quillard, l'une des deux rédactrices en chef de la revue 21, demain en librairie, 16 euros.
Nouvelle mini-série pour TF1, Peur sur le lac, c'est diffusé ce soir à 21h05 et on va en parler dans Culture Média avec la comédienne principale Julie Debonnat et le réalisateur Jérôme Cornuau dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Et dans Culture Média, Philippe, on va parler avec nos invités qui sont
qui
déjà
parlent
dans
déjà,
ce studio
sont
de la nouvelle mini-série de TF1,
bonjour,
Peur sur le lac.
Bonjour Julie Debonnat.
Bonjour.
Vous êtes comédienne, on vous a vu récemment dans le gros carton de TF1, c'était le bazar de la charité qu'on pourra revoir bientôt sur Netflix. Et vous êtes facile à reconnaître car vous êtes la seule qu'on ne reconnaît pas. Vous étiez totalement maquillée, vous incarniez une grande brûlée de l'incendie. Et ce soir, vous revenez sur TF1 à 21h avec Peur sur le lac. Bonjour.
Bonjour Philippe.
À côté de vous, le réalisateur de la série qui en est également l'auteur, Jérôme Cornuau. Bonjour.
Bonjour.
Alors ça fait suite au Tueur du lac, mais on peut comprendre Peur sur le lac sans avoir vu le Tueur du lac.
Oui, c'est deux mini-séries bouclées en fait.
D'accord,
donc bouclées, ça veut dire à chaque fois l'histoire dans les 6 épisodes se boucle et les résultats, les réponses sont là.
Donc Peur sur le lac, cette fois c'est un mal terrible qui déboule, mais c'est un tueur, mais... À ce tueur, on ne peut pas passer les menottes. C'est quoi la trame de départ ?
C'est ça, c'est un tueur en série complètement particulier, qui est invisible. C'est un virus qui se répand sur la ville d'Annecy. Et on ne sait pas de quelle origine est ce virus, si c'est criminel, si voilà, comment éradiquer ce virus qui tue en 72 heures, Jérôme, c'est ça à peu près ? 48 heures.
Ça peut être criminel, ça peut être du terrorisme, ça peut aussi être un accident, ça peut être une véritable maladie. Bonne annonce.
Il semble qu'une souche nouvelle du virus Ebola soit entrée sur le territoire. Il convient d'activer l'isolement de milliers de personnes susceptibles d'avoir été en contact avec le virus.
Tout est sous contrôle.
Vraiment ?
Le virus va se répandre à vitesse grand V, ça va être une hécatombe.
7 ans à d'autres villes. On n'a rien pour endiguer.
Événement. Peur sur le lac, votre nouvelle série inédite, jeudi 9 janvier sur TF1.
Ah, c'est même plus un extrait, c'est vraiment la bande-annonce. Jérôme Cornuau, comment vous est venue cette idée tordue, importer Ebola au bord du lac d'Annecy ?
Pour deux raisons. J'essayais en fait de proposer aux spectateurs un peu autre chose que simplement une scène de crime, une enquête classique. Et je voulais essayer de pousser le genre de la série policière vers un autre genre qui est un peu les films catastrophes.
Ouais.
Et je tournais la série Guyane en Guyane et j'avais plein de parasites en moi. Et j'ai eu l'idée donc de ce
pour de vrai,
virus.
Non, mais me dites pas que c'est parti d'une gastro.
Pas d'une gastro, de poux qui rentrent dans le sang et du coup ça m'a donné cette idée-là.
Non, une vraie histoire, donc c'est véridique l'histoire.
Super, je pense à tous les gens qui sont au petit-déj. Oubliez les poux qui rentrent dans le sang. Les gens se mettent à saigner du nez, ils transpirent beaucoup comme dans Ebola, les images terribles qu'on a vues qui venaient d'Afrique. Et Julie, vous dites que c'était assez facile parce que de jouer en surchauffe, car vous étiez littéralement en surchauffe.
Oui, c'était la grande vague de canicule de cet été. On était sous une tente militaire noire en plein cagnard, donc il faisait 50 degrés, Jérôme,
à peu près.
Donc toute l'équipe technique était vraiment avec nous. On avait tous le virus en nous. Quoi.
Ouais. Et vous transpiriez.
Ah oui, mais il n'y avait pas grand-chose à
surtout
jouer.
Surtout avec les combinaisons antibactériologiques qui sont quand même assez chaudes.
Dans le Téléstar de cette semaine, Julie, vous dites c'était hyper compliqué car je devais jouer une femme en distance permanente avec ses émotions, alors que dans la vie, je me mets à pleurer dès que quelqu'un me raconte ses malheurs. Là, il y avait plein de malheurs. Je comprends bien ce que vous dites, mais vous comprenez bien que c'est une fiction. Ou est-ce que vous êtes à ce point dans vos rôles que vous pensez que c'est vrai et que les gens devant vous sont en train de mourir pour de vrai, qu'ils ne seront pas demain au petit-déj.
Non, c'est-à-dire que ce personnage, je l'adore, et on l'a construit avec Jérôme et tout, est à l'opposé de ma personnalité, donc c'était toujours un challenge d'arriver à être juste dans l'e-stalker, c'est-à-dire que c'est une flic incroyable qui arrive à avoir de la distance avec les gens, arriver à mettre son ego de côté pour être au service de sa cause. Et moi, de temps en temps, j'étais trop expressive, trop dans l'émotion, trop dans l'affect, et donc à chaque fois, Jérôme me redressait c'est la barre pour arriver à jouer cette liste au cœur. Voilà.
Mais ouais, quand Julie est arrivée sur le Tueur du lac, Jérôme, j'ai retrouvé une citation de vous. Vous dites que vous vouliez pas qu'elle joue comme une flic de télé ordinaire, ça je vous comprends, mais ça veut dire quoi ? Et vous vouliez qu'elle ait un sentiment de culpabilité. Mais qu'elle se sente, c'est vous qui l'avez dit, mais qu'elle se sente coupable de quoi?
Non, je m'en souviens plus. Bah, qu'elle se sente coupable de tout ce qui se passe, en fait. Il y a des gens qui s'attribuent comme ça le malheur de tout le monde et qui se sentent responsables de tout. Et elle avait un peu ça.
Elle m'a demandé de baisser les épaules, tu vois.
Oui, on avait joué sur la posture.
Ah oui, genre, il y a un mort, c'est de sa faute.
Voilà, non, mais elle porte le drame sur ses épaules, le monde sur ses épaules. C'est ça, le côté culpabilité dont tu parles.
Et en plus, elle enquête sur ses copines. Donc en plus, il y a une histoire familiale, il y a plein d'histoires qui se chevauchent, c'est un millefeuille, je ne peux pas tout raconter, mais il y a plein d'histoires dans l'histoire.
C'est-à-dire que si elle n'est pas solide, et ça je rejoins vraiment Jérôme, si elle n'est pas solide, elle ne peut jamais éradiquer ce virus, elle ne pourra jamais faire cette enquête. Donc il fallait vraiment qu'il y en ait une qui tienne la barre, puisque tout le monde est un petit peu dans des drames autour, et donc c'est ça qui était difficile à faire. Mais...
Casting de première classe, il y a votre compère Alanis Gautry, mais également Sylvie Testu, Clotilde Courau, Lola Devers, Cécile Reboir, ils étaient faciles à convaincre.
Ils ont tous été assez ouverts à la proposition. Ouais.
Et il y a également Frédéric Chau, pour qui ne le situe pas, c'est le chinois de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Et ça va faire plaisir au CSA, je dis ça sans ironie à nous, parce qu'il ne joue pas un rôle d'asiatique. Je veux dire par là qu'il joue un rôle, et il se trouve qu'il est asiatique, mais son rôle n'a rien à voir avec ça, c'était un choix de votre part.
Oui, enfin, c'est bien à un moment d'essayer d'inclure la réalité de la société française et donc de faire jouer tous les Français sans forcément tenir compte de leurs origines.
Pascal Légitimus, à ce micro, disait qu'il ne voulait plus des rôles de noirs. Si on dit le type est noir, il dit je prends pas ce rôle, moi je prends un rôle. Et puis après, il se trouve que je suis noir. Et donc c'était pareil avec Frédéric Chau. J'ai un petit compliment à vous faire, mais je vais le faire juste après ça.
Peur sur le lac, alerte au virus à Annecy, c'est la nouvelle mini-série de TF1 diffusée ce soir à 21h05 et on continue à en parler dans un instant avec nos invités sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Après Mystère du lac en 2015 et Le Tueur du lac en 2017, retrouvez ce soir Peur sur le lac à 21h05 sur TF1. Nouvelle mini-série où une épidémie mortelle frappe la ville d'Annecy. On continue à en parler avec nos invités, Jérôme Cornuau, auteur et réalisateur de la série, et Julie Debonnat qui tient le rôle principal féminin dans cette série.
Oui, j'avais promis à Jérôme Cornuau un compliment, le voici, c'est le pré-générique qui est absolument excellent. Enfin, il se passe quelque chose. Habituellement, chaque fois qu'on regarde un téléfilm qui commence, on a le temps d'aller se laver les mains, de se faire un thé, de revenir et même de se dire tiens, le thé est froid, ça n'a toujours pas commencé. Là, ça y va direct.
Oui, c'était une idée d'un des co-auteurs, Yann Brion, d'avoir ce teaser en pré-générique. Ouais. Je reconnais que c'est assez efficient.
Oui, c'est assez efficient. Il y a quelque chose qui a changé dans une série française. Il y a des drapeaux français sur les pontons. En général, on cache les drapeaux. Et je me suis dit, on les cache. Par exemple, dans les séries suédoises, il n'y a pas de drapeau suédois. Série danoise, il n'y a pas de drapeau du Danemark. Et je me dis, pour l'export, c'est pour l'export, vous avez fait attention à ça ou pas du tout?
Pas du tout, en fait.
Un élément de décor, ils étaient là.
Ils étaient là et on n'a pas du tout. Non, mais quand on les retirait,
vous savez, quand on est réalisateur, on peut retirer des choses,
oui,
non?
Oui, mais je suis quelqu'un de très gentil. En fait.
Heureusement que vous ne filmez pas un truc en habit, parce qu'il y aurait des cabines téléphoniques du temps de Marie-Antoinette. Hein. Oui. Je me méfie. Julie, comment vous avez abordé ce rôle? Vous avez enquêté, si j'ose dire, chez les enquêteurs?
Alors oui, c'est pas une suite, mais on avait déjà travaillé 2, dans le tueur, donc j'avais travaillé pour le tueur, et là on reprenait le costume de Lise, donc j'ai pas travaillé
de nouveau.
Et avec la médecine sur Ebola, parce que j'ai lu quelque chose, j'ai appris que pour un rôle de prostituée, c'était dans le film La Smala s'en mêle, vous étiez entraînée à vous balader dans la rue avec des talons et une jupe très très courte.
Oui, j'aime bien faire un peu d'immersion. C'est comme pour Innocente, où je suis allée voir des femmes en prison pour les rencontrer. J'aime bien... Mais là, la flic, je l'avais fait...
Tu t'as injecté un virus.
Voilà, le virus. Moi, je suis hypochondriaque, comme Jérôme, d'ailleurs. Donc, c'était pas très compliqué. Mais par contre, pour la flic, j'avais fait il y a quelques années un stage dans un commissariat pour tirer et tout ça. Et ça m'avait...
Et pour la prostituée, mince, j'ai pas lu toute ma citation. Vous avez dit aux Parisiens. Donc, elle était en jupe très courte et talons. Elle a dit « Pour savoir ce que c'est que d'être vulgaire ».
Et pour essayer de... Je suis même allée voir les filles à Saint-Denis et essayer de ressentir ce que c'est que...
Ça s'est arrêté un moment quand même, l'immersion.
À votre avis?
Comment? Évidemment. Sinon, mais il y a un livre que je recommande qui s'appelle La maison de cette fille qui a travaillé 2 ans en maison close en Allemagne. Livre qui a fait scandale. Okay. Emma Becker, son nom me revient. Juste un mot, les caméras de surveillance, j'en ai jamais vu, Jérôme Cornuau. Grosse utilisation dans le procédé. C'est aussi précis que ça, les caméras de surveillance. On peut à ce point tracer les gens dans une ville ou c'est vous, pour les besoins de la fiction, qu'on avait rajouté et retourné des séquences?
J'ai retourné des séquences, mais il y a autant de caméras de surveillance dans les villes.
Mais c'est aussi précis que ça, les zooms.
C'est aussi précis que ça, oui.
Waouh, et ça fait peur. Julie, je reviens sur le succès du Bazar de la Charité. Il fallait un sacré culot pour jouer le personnage de Rose. Vous êtes brûlée sur la moitié du corps. pour souvenir, c'est la personne qui emprunte l'identité d'une autre après l'incendie du bazar de la Charité. Je veux dire par là qu'avec le joli minois que vous avez, je reprends l'expression de Karine Didier dans Le Parisien, c'est pas facile d'être défiguré pendant 7 épisodes sur 8. Pourquoi vous avez dit oui ?
Ah ben, pour moi, c'était évident. Enfin, c'est-à-dire que c'était un cadeau pour une actrice, ouais, justement, d'aller jouer autrement, d'aller explorer une autre partie de moi, d'un personnage. Et le personnage est extraordinaire. Ouais. C'est vraiment un cadeau, ouais, d'actrice. C'est une tragédie à jouer. C'est un challenge. C'est...
Je sais, mais quand même, allô, Julie, ouais, quoi, j'ai un cadeau pour toi. Ouais, t'auras une sale tronche. Non ?
Non, il y a un truc que je peux dire, c'est que j'ai rêvé de faire une série en costume, ouais, d'époque et romanesque pour mettre des corsets, des perruques, voilà. C'est un truc de rêve de petite fille et j'étais trop contente d'être dans cette série et j'ai eu le rôle le moins glamour de la série. Donc, ben voilà, ouais, c'est juste ça.
Et vraiment, les comédiens vous ont pas reconnu ou pas ?
Ouais, sur le tournage. En plus, quand je suis bandée au début, il y a un épisode entier où on ne me voit pas, oui, quoi, carrément. Ouais. Et c'était Antoine Duléry, que je connais très bien, et il passait à côté de moi plusieurs fois, il ne savait pas que c'était moi, c'est drôle.
Il paraît que vous créez des playlists pour chacun de vos personnages, c'est vrai ?
Oui, tout à fait.
C'est quoi la playlist de Lee Stalker ?
Ouais. Eh ben, elle me fait peur. Il y a pas mal de Conjuring, des films un peu d'horreur. On a pas mal, voilà, donc j'écoute, Jérôme il le sait, j'écoute de temps en temps un peu de musique pour me remettre dans l'ambiance, parce que encore une fois, je suis vraiment à l'opposé de Lise, donc il fallait vraiment que je me mette dans un truc un peu plus sombre, plus profond, plus dark.
Et votre prochain personnage, c'est quoi ?
Parce que le prochain tournage, ouais, et ben je peux annoncer que je vais faire une nouvelle série. Je viens de signer pour une nouvelle série pour TF1, une mini-série de 6 épisodes qui va s'appeler Plan B. Et donc c'est l'histoire d'une chroniqueuse de radio.
Non. Philippe.
Si.
Et vous allez entrer en immersion ?
Je vais. Alors j'adorerais, si c'est possible, faire un petit stage en radio.
Vous voulez venir ici ? Vous voulez dans la peau de qui ? Vous voulez suivre quelqu'un ?
Philippe, si vous me le proposez, je serais ravie de venir faire
un stage
ici.
Alors je vous le propose.
Ici.
Vous voulez venir quoi ? Une semaine ? 4 jours ? 5 jours ?
Je peux faire un petit stage ?
Bien sûr.
Ah,
avec,
oui,
qui ?
Avec Hélène Manarino, si c'est possible.
Sûr, ouais.
Oui, parce que j'adore ses chroniques.
Moi aussi.
Les portraits qu'elle fait inattendus.
C'est pas vrai. Et vous êtes dans le studio pendant une...
J'aimerais beaucoup, c'est possible ?
Vous savez quoi faire ? Bien sûr que c'est possible. Vous savez faire quoi en radio ?
Alors,
les cafés ?
Alors j'aimerais, mais non, mais j'aimerais bien observer ce que c'est qu'être chroniqueuse, faire peut-être un direct en, ouais, vrai, si c'est possible de faire un petit.
Non, le ce que vous venez de faire n'était pas du tout concluant, pas du tout. On va vous laisser au café, mais non, je plaisante. Jérôme Cornuau, votre prochain projet, vous savez déjà ou pas ?
Oui, je vais faire un unitaire que j'ai écrit sur TF1 avec Alistair Glioni, qui est le portrait. Inspiré de la vie de Dorine Bourneton, qui est le portrait d'une femme handicapée qui a eu un accident d'avion et qui est la première femme pilote d'avion qui fait de la voltige aérienne.
Waouh, magnifique.
Je tourne en mars, quoi.
D'accord.
Et ensuite, je fais un long métrage adapté d'un roman de Grégoire de la Tour qui s'appelle L'écrivain de la famille.
Un long métrage pour le cinéma.
Ouais.
Comme quoi, chez les réalisateurs aussi, comme avant, on disait, essayer une cloison entre le cinéma et la télévision, et désormais, c'est interchangeable chez les réals comme chez les comédiens.
Oui, enfin, j'ai commencé par des longs métrages, puis je suis venu à la télévision, puis je reviens au long métrage, et puis je fais des allers-retours.
C'est une bonne nouvelle. Avant de retrouver Julie Debona ici en studio avec Hélène Manarino pendant une semaine, Peur sur le lac, c'est ce soir sur TF1, mini-série de 6 épisodes de 52 minutes. Il y en a 2 qui passent ce soir, j'imagine, ouais, et puis jeudi prochain.
Oui, 3 soirées pendant 3
Merci
semaines.
Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Merci,
merci
beaucoup.
Merci Philippe, à bientôt.
Merci
alors.
Beaucoup.
Dans un instant, c'est notre heure culture, mais maintenant, place au Rat d'auteur, votre rendez-vous d'humour dans Culture Média avec Stéphane De Groot et Gilles Gaston Dreyfus.
Gilles Gaston Dreyfus, Gilles.Gaston Dreyfus.
Toi, c'est Stéphane De Groot.
Toi, tu dis De Groot.
Une vraie question. En France, on dit De Groot.
Oui.
Donc.
Qu'est-ce que vous disiez, du coup ?
Bah, du coup, je.
Rien.
Jeudi tourne.
Quand je dis jeudi 9.
Bonjour Stéphane.
Joyeux jeudi.
Joyeux jeudi.
Mais oui. Il y a une personne qui est née aujourd'hui.
Qui est morte.
Qui est née. Je viens de dire qui est née.
Ah, vous passez aux naissances.
Il y aura des morts. Simone de Beauvoir.
Simone de Beauvoir. Vous pouvez parler de Simone de Beauvoir en combien de temps ?
Vous faites ce que vous voulez, Gilles. Vous êtes libre.
Qu'est-ce qu'on peut dire de Simone de Beauvoir ?
C'est à vous de le dire.
Moi, j'ai une anecdote assez marrante sur Simone de Beauvoir, mais c'est trop long à raconter.
Bah alors, ne la racontez pas.
Ça va emmerder tout le monde.
Mais si c'est très long, ça s'appelle une anecdote, ça s'appelle une histoire.
C'était quelqu'un de remarquable, hein, oui. Journaliste. À la revue. C'est horrible, j'ai un trou. Le temps. Oh là là.
Le Torrent Assassin ?
Non. La revue de Sartre-Beauvoir.
VSD ?
Oh, VSD, mais
lui.
Non. C'est horrible.
Penthouse ?
Pas le temps présent.
Paris Match ?
Non. C'est horrible.
Union ? Express ? Géo ?
J'ai honte.
Stylo Magazine ? Officiel Voyage ?
Taisez-vous !
Philosophie ?
Non !
Le temps des billes ? Le temps des bonbons ? Vous êtes fous, quoi ? Parlons des chiclettes, alors, je sais pas. Elle a dit des choses.
Voilà. Les temps modernes.
C'est Charlot, ça.
confondait Charlot avec Simone de Beauvoir. On est vraiment bien parti.
La revue s'appelle Les Temps Modernes.
J'ai envie déjà de passer tellement au vendredi. Qui a dit vivre, c'est vieillir? Rien de plus.
Je sais pas qui.
Ben, c'est Simone de Beauvoir.
Vivre, c'est vieillir?
Rien de plus. Elle a dit aussi l'amour maternel n'a rien de naturel.
Oui, d'accord. Ce sont des phrases qui sont contestables.
Toutes les phrases sont contestables.
Oui, mais quelquefois il y a des phrases plus évidentes.
On ne naît pas femme, on le devient.
C'est elle qui a dit ça ou c'est.
Vincent Lagaffe. D'abord, c'est une femme qui le dit.
C'est pas des phrases que je comprends.
On ne naît pas femme, on le devient, vous comprenez pas?
Non.
Enfin, ça veut dire qu'on met du temps à devenir ce qu'on doit être. Ça va, Gilles?
Ça va pas du tout, en fait.
Qu'est-ce qui vous arrive? On a parlé de Simone de Beauvoir, ça vous met dans un état très particulier. Hashtag particulier. Qu'est-ce que vous faites, Gilles?
La revue s'appelle Les Temps Modernes.
Ça, vous l'avez dit il y a une demi-heure.
Oui, hein. Non, mais
ça vous inspire rien du tout, ça. Simone de Beauvoir. Parce que vous êtes assez sensible au hashtag MeToo. Et là, il y a hashtag rien du tout.
Je suis pas sensible à hashtag MeToo. Hein. Je suis sensible au mouvement de libération de la parole de la femme.
Mais c'est ce qu'on vient de dire. Là, vous faites hashtag, ma phrase est beaucoup très longue. Le vrai nom de Simone de Beauvoir.
Je ne sais pas.
Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir. Je vais passer à Nixon.
Vous savez pas s'il est né ou mort?
Non, en tout cas, c'était Nixon. Vous en pensez quoi de Nixon?
J'en pense quoi?
Pas Jean-François, c'est j'en pense quoi.
Je pense que ça ennuyait les auditeurs.
Ça les ennuie déjà depuis un certain temps.
De toute façon, moi, je vous ai prévenu qu'en fin de semaine, je ne valais plus rien.
Hashtag à demain. C'est vraiment dommage. Simone de Beauvoir méritait quand même. Bon, à demain, Gilles.
À demain, Stéphane.
C'était Les Rats d'auteur avec Stéphane de Groot et Gilles Gaston Dreyfus. Vous les retrouverez évidemment demain à 9h55 et en podcast sur europe1.fr.
Europe 1, Culture Média.
Culture Média qui continue après le rappel des titres. On va parler culture avec Thierry Lhermitte. Il s'apprête à jouer la pièce Fleur de Soleil au théâtre Antoine. L'histoire, c'est celle de Simon Wiesenthal, le chasseur de nazis, qui se pose cette question. Peut-on pardonner l'impardonnable? Peut-on accorder soi-même une rédemption au nom d'autres victimes? Et cette question, et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Hélène Manarino va nous dresser le portrait inattendu de Thierry Lhermitte dans quelques instants. Et puis dans les indispensables de la musique, avec un inédit de David Bowie, si ce nom vous dit quelque chose. Angèle Châtelier va également nous présenter une nouvelle artiste, pas inconnue, des amateurs de surf et non pas de surf. Et puis, une sélection BD au programme avec Mathieu Charrier, une histoire de super-héros mais un peu particulière, une fable écolo et une balade avec un reporter radio.